Bonsoir mes frères et sœurs, quelle grâce d'être dans sa maison. Nous allons lire quelques versets, s'il vous plaît, le premier dans le psaume 93. Dans le psaume 93, un texte qui revient souvent. Et je voudrais que nous parlions de ce texte ce soir. Pour voir si ça se passe dans votre vie. Alors, psaume 93, nous allons lire les deux premiers mots, ou les trois premiers mots. L'Éternel règne. Qu'est-ce que vous dites? Vous le dites vraiment? Est-ce que vous le croyez? L'Éternel règne. Dans Matthieu chapitre 6, nous avons un enseignement de Jésus sur la façon dont nous devons prier, parce que nous devons prier. Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus nous enseigne quelle doit être la trame de notre prière, le canevas de notre prière. Il nous demande de faire très attention, de ne pas prier pour prier, de ne pas prier comme les païens, de ne pas prier comme les hypocrites. Il y a un état d'esprit. Voici comment vous devez prier, verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je relis cette dernière phrase. C'est Jésus qui parle et qui nous enseigne comment nous devrions presque conclure nos prières, conclure nos journées, conclure toutes nos activités. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'il y a ce soir dans ce lieu des frères et des sœurs qui le croient vraiment? Dieu règne au siècle des siècles. Alors je vais vous poser une question, vous allez m'aider, vous allez faire la prédication avec moi, d'accord? À quoi reconnaît-on un véritable chrétien? Si vous deviez répondre en 5 ou 6 lignes, qu'est-ce que c'est pour vous un véritable chrétien? À quoi on le reconnaît? Au cantique qu'il connaît par cœur? Un chrétien qui connaîtrait tous les cantiques par cœur? Est-ce que ça ne serait pas un bon chrétien? Hein? Aux années de marche avec Dieu, tiens, ça fait combien? 20 ans. Oh là, ça doit être un véritable chrétien. À la quantité de textes bibliques qu'il connaît par cœur, est-ce qu'un chrétien qui connaît beaucoup de textes bibliques, c'est un bon chrétien? Vous ne m'aidez pas beaucoup, je vous demande de m'aider. Au ministère, tiens, au ministère. Ah, tel frère a reçu tel ministère, il a reçu même 2 ou 3 dons. Oh, ça fait de lui un véritable chrétien. Non, j'ai trouvé. Je sais à quoi on reconnaît un véritable chrétien. À la facilité qu'il a de prier en public. Voilà. Non? Est-ce qu'un chrétien qui prie bien lorsqu'il y a du monde, qui a la facilité de... Est-ce que ça fait de lui un véritable chrétien? Bien sûr que non. À quoi on reconnaît un véritable chrétien? Il fait confiance. Voilà en quoi on reconnaît un chrétien. Il a appris à connaître la voix de Dieu. Jésus l'a dit, « Mes brebis, elles connaissent ma voix. » Voilà en quoi on reconnaît un chrétien. Il connaît la voix de Dieu. Il connaît la parole. Elle n'est pas dans sa tête. Elle n'est pas là emmagasinée dans son cerveau. Elle est passée par son cerveau. Mais elle a eu cette intelligence de descendre dans le cœur. Tout ce que Dieu a dit, ça a été écouté avec sérieux. C'est ce que Dieu nous demande. Jésus a dit combien de fois, mais vous écoutez, vous n'entendez pas, vous entendez, mais vous n'apprenez pas. Le Seigneur Jésus, on voit, est affligé de voir que les gens, ils entendent, mais en vérité, ils n'écoutent pas. Vous vous rendez compte? Rien que le début de l'évangile, dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Rien que ça. Vous vous rendez compte, si tous les chrétiens vivaient cela, tous les chrétiens seraient dans le repos. Je vous donnerai du repos et vous trouverez le repos. Vous vous rendez compte? Le seul fait de recevoir les instructions. Un vrai chrétien, ce n'est pas un chrétien qui est dans telle dénomination ou dans telle autre dénomination. Des fois, on a la bêtise de comparer des dominations. Ça peut se faire, mais ça ne sert strictement à rien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Quand Dieu dit qu'il règne au siècle des siècles, il règne. Qu'en France, moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris qu'il y avait eu la guerre de 100 ans. Vous l'avez appris, ça? La guerre de 100 ans. Quand vous avez 10 ans et que vous apprenez à l'école qu'il y a eu une guerre qui a duré 100 ans, vous avez l'impression que c'est pas possible. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des intermittences. Mais est-ce que Dieu régnait pendant la guerre de 100 ans? Bien sûr. Dieu règne dans les siècles de disette, dans les siècles d'abondance. Il règne. Si vous ne le croyez pas, vous ne serez pas un bon chrétien. Vous pouvez prier à haute voix dans l'église, vous pouvez connaître des milliers de textes, vous pouvez connaître tous les cantiques par cœur, vous pouvez savoir plein de choses. Si vous ne faites pas confiance, ça sert à rien. C'est à toi, dira Jésus, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Si vous ne le croyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas descendu dans votre cœur. C'est peut-être resté dans la nébuleuse du cerveau, mais je peux vous dire qu'il faut que ça descende dans votre cœur. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Vous le croyez ça ou vous croyez que c'était Jésus qui paraphrasait les textes, qui expliquait d'une certaine manière des versets bibliques? Non, non, non. Jésus est la vérité. Et alors on va prendre un texte justement pour voir si ce que vous en faites de ce texte, parce qu'il y a des textes, c'est facile de les accepter. Dans l'épître de Jacques, il y a un verset, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à rentrer justement dans cette perception. Dans Jacques, au chapitre 1er, vous devez connaître le texte que je vais utiliser, je pense. Jacques, chapitre 1er, vous y êtes? Verset 2, on va lire à partir du verset, jusqu'au verset 5. Vous connaissez ce texte? Vous le connaissez? Si vous êtes ici dans cette église, vous le connaissez, c'est sûr. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, alors vous inquiétez pas, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est pas pour rien qu'il est ajouté, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Vous connaissez ce texte? C'est quand la dernière fois vous avez demandé de la sagesse à Dieu? Peut-être que vous n'avez pas besoin, non? Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont tellement reçu de la sagesse que vous n'avez pas besoin d'en demander à Dieu. Mais sincèrement, est-ce que vous demandez régulièrement à Dieu de la sagesse? Parce que les épreuves, c'est quand même un sujet extrêmement compliqué. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu qui règne, il règne au siècle des siècles sur tout. Qu'est-ce qu'il nous demande? De lui rendre grâce en toutes choses. Et ce n'est pas écrit que là. C'est écrit dans les Thessaloniciens, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. D'où cela vient-il que les chrétiens ne le font pas? Pourquoi les chrétiens ne rendent pas grâce? Vous avez dit, si, je le fais. Ouh, chaque fois que je prends mon petit déjeuner, chaque fois que je prends mon dîner, chaque fois que je prends mon souper, dans la maison, on n'oublie jamais de rendre grâce. D'accord, c'est très bien, faites-le. Mais je crois que rendre grâce à Dieu, c'est un petit peu plus supérieur que ça. C'est un état d'esprit. Je fais confiance à Dieu. Bien sûr que je saute pas de joie parce que je suis dans l'épreuve. Considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, ça veut pas dire « Youpi, on m'a annoncé que j'ai le cancer, c'est merveilleux ». C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que Dieu connaît ma situation. Vous croyez que Dieu connaît tout de vous? Vous le croyez que Dieu sait dans quelle histoire vous êtes? Vous croyez que quand vous dites à Dieu, tu vois, Seigneur, j'ai tel problème, il vous répondrait, ah, je ne le savais pas. Ah, je viens de l'apprendre. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ça fait partie de la prière. Dieu sait qu'on a besoin de le lui dire, mais il est au courant. Est-ce que Dieu sait tout? Bien sûr, il y a des gens quand ils prient, ils informent Dieu. Vous voyez? Ils ont l'impression que Dieu n'était pas au courant. Mes frères et sœurs, Dieu sait tout. Il voit tout. Il faut que nous lui donnions notre pensée, bien sûr, dans, par rapport à ce fardeau. Dieu regarde au cœur. L'homme, il regarde à ceux qui frappent les regards, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Nous, on peut dire, oh, ce frère, il prie bien. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, oh, il prie fort à haute voix. Qu'est-ce qu'il doit connaître Dieu ? Écoutez-moi, je suis bien placé. C'est pas parce qu'on prie Dieu à haute voix dans l'église qu'on est plus spirituel que ceux qui ne prient pas à haute voix. Ça, c'est des considérations humaines. Bien sûr, Dieu veut qu'on prie à haute voix dans l'église, c'est vrai, mais c'est pas ça qui détermine la spiritualité de quelqu'un. Comment vous lui dites merci ? Vous lui dites merci combien de fois par jour ? Tiens, est-ce que vous lui dites merci ? Combien de fois vous dites merci à Dieu ? Vous ne les comptez plus ? Ben, c'est bien. Mais sincèrement, c'est un état d'esprit que vous avez de lui dire merci ? Ou vous vous forcez parce qu'on vous le demande ? Non, je crois que c'est un état d'esprit. C'est quoi qui a le plus dans votre vie ? Des merci ou des dons ? Il faut m'aider, on a dit qu'on la bâtirait ensemble, vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein. Comment ? C'est des pardons ? Oui, ben oui, vous êtes honnête, hein. C'est bien. Le merci, lorsqu'il vient du cœur et qu'il est continuel, puisque Dieu nous demande de rendre continuellement, c'est la preuve qu'on dépend de lui. Si vous ne dites pas beaucoup merci, c'est que vous ne dépendez pas beaucoup du Seigneur. Je vous le dis franchement, là je pourrais prendre des versets pour le prouver. Mais mes frères et sœurs, si vous ne dites pas beaucoup merci au Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas. Un véritable chrétien, il est rempli de reconnaissance. Il ne rend pas grâce à Dieu le dimanche matin. Bien sûr qu'on le fait, on s'applique. Mais si notre vie spirituelle se résume à remercier Dieu que le dimanche matin, je pense que nous passons à côté. Un chrétien qui ne rend pas grâce, c'est un chrétien qui passe à côté de quelque chose. Puisque c'est écrit, rendez continuellement grâce. Vous avez vu comment David dit, mon âme compte les bienfaits. Vous rendez compte ? Il comptait les bienfaits. Vous rendez compte ? Compte les bienfaits de Dieu. Je ne sais pas si vous les avez comptés, les bienfaits que Dieu vous a accordés depuis que vous êtes né. Vous les avez comptés ? Combien y en a-t-il ? C'est Paul qui dit, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Les diverses épreuves, parce que quand même il faut être objectif, on est conscient qu'il faut rendre continuellement grâce, mais on est également conscient que nous sommes confrontés à toutes sortes d'épreuves. Dans quel domaine vous avez été éprouvé ? Alors là, vous pouvez me répondre plus facilement. Dans quel domaine vous avez été éprouvé depuis que vous êtes vivant ? Dans quel domaine ? Allez, aidez-moi, là, je veux dire. La santé ? Là ? Le deuil, donc la famille ? Le deuil, oui. Oui, la famille, le placement des enfants, c'est des douleurs, ça, dans la famille, vous voyez. Les diverses épreuves, ça peut être... Est-ce qu'il peut y avoir des épreuves dans l'église, par exemple ? Est-ce que dans l'église, il peut y avoir des épreuves ? Ben oui. Dans la famille, dans le couple, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie du monde, etc. Ou parce qu'on travaille dans le monde, etc. On peut être éprouvé dans tous les domaines. Et Dieu dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Pourquoi ? Parce que Dieu sait, il sait exactement, il règne. Regardez avec moi dans Lamentation de Jérémie. Vraiment, il faudrait que ces textes, je me demande bien s'il ne faudrait pas parfois qu'on les apprenne par cœur, vraiment. Vraiment, qu'elles soient dans la tête, hein, pas dans le cœur, pas dans le cerveau. Regardez dans Lamentation de Jérémie. Ce sont des versets qui affirme ce que je vous explique. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Il y a plein de versets comme ça qui prouvent que Dieu règne. Il faut être sérieux. Et c'est une question. J'aime à rappeler que quand il y a une question, c'est que Dieu, il veut qu'on réfléchisse et qu'on réponde surtout. Vous avez vu comment voyez, alors on va lire verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? Voyez, ça c'est une question. Dieu pose cette question. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? Je me rappelle, j'avais prêché sur ce verset le dimanche avant la ZDF. J'avais prêché sur ce verset. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Deuxième question. Troisième question. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et bien sûr, enseignement, si quelqu'un se plaint, que chacun se plaigne du péché des autres. C'est ça? Ah pardon. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Qui dira? Vous voyez? Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas être long, je voudrais être simple. Dieu règne sur tout. Il sait tout. Quand vous le priez, ce n'est pas pour l'informer, c'est pour qu'il agisse. Parce que c'est comme ça, c'est des lois spirituelles. Mais qui dira? Mais alors, les païens, ils disent ce qu'ils veulent, les païens. Les païens, eux, ils disent, oui, Dieu n'existe pas, et ceci, et si Dieu ceci. Mais ça, c'est le langage des impies. Mais là, je m'adresse aux chrétiens. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Qui dira? Qu'est-ce que vous dites? La seule chose dont on devrait se plaindre, on l'a lu, c'est de nos propres péchés. Même pas du péché des autres. Je me plains de mes péchés. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Dieu ne règne pas sur le péché. Il règne sur tout, mais il ne règne pas sur le péché. Et si vous vivez dans le péché, ne vous imaginez pas que Dieu règne dans votre vie. Ça, c'est sûr, par contre. Ça, ne vous imaginez pas. Vous pouvez chanter en boucle « Règne en moi, roi puissant, règne en moi ». Je peux vous dire que ça ne servira à rien. Dieu règne sur des gens qui lui font confiance, qui s'appliquent. « Oui, Seigneur, je crois que ce qui arrive, ça me dépasse. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas pourquoi tu permets. Mais je veux une seule chose, c'est me plaindre de mes péchés et régler cette affaire. » Il faut que je règle ça, parce que je ne veux pas qu'il y ait un nuage entre toi et moi, Seigneur, par rapport à cette affaire. Je veux vraiment dire les choses comme toi, tu les dis. C'est pour ça que je peux me réjouir, parce que Dieu sait ce qui se passe. Dieu contrôle toutes choses. Ne le voit-il pas? Vous croyez que Dieu voit toutes choses? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Jésus, quand il a dit « les cheveux de votre tête sont tous comptés » Qu'est-ce qu'il a, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Qui compte les cheveux de notre tête? Est-ce que c'était une plaisanterie? Qu'est-ce que ça veut dire? Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bien sûr, ce n'est pas une plaisanterie. Ça veut dire que ce qui nous arrive, Dieu le sait, il contrôle tous les détails. Vous pouvez dire merci Seigneur. Tu contrôles tous les détails de ma vie et tu as une solution. Dieu, il sait pourquoi il permet, ou Dieu, il sait pourquoi il fait quelque chose, mais il n'est pas obligé de nous le dire. Est-ce que vous comprenez ce qui fait un véritable chrétien? Il a confiance. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, quand Abraham amène son fils sur le mont Morija, et que son fils, quand même, au bout d'un moment, il va lui poser la question et dire, papa, je vois qu'il y a le bois, et il y a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira. Il aurait pu dire, écoute, fiston, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est terrible, ça. Mais il connaissait Dieu. Il obéissait à Dieu. Abraham, il fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est sûr que ça nous dépasse. C'était dans un autre cadre. Dieu ne redemandera jamais à quelqu'un de sacrifier son fils. Je peux vous le dire. C'était bien avant la loi. C'était une autre affaire. Mais Abraham, il était en train d'obéir. Dieu régnait dans sa vie. Donc, il pouvait pas faire autrement que de dire, mais Dieu pourvoira. C'est ça, connaître Dieu. Seigneur, je t'obéis. Tu ne règnes pas sur le péché. Si je suis dans le péché, il faut régler le problème du péché. Il faut le faire d'une manière consciencieuse. Mais mes frères et sœurs, qui dira qu'une chose arrive lorsque le Seigneur permet des choses qui nous dépassent? Mais ne vous fâchez pas. Il y a des gens, ils sont contrariés tout le temps. Ils sont tout le temps contrariés et contrariants. Mes frères et sœurs, Dieu règne. Dieu pourvoira. Il sait ce qu'il fait. Quand Dieu a donné les deux songes à Joseph, ces deux songes, bien sûr, qui étaient extraordinaires. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu lui en donner un troisième? Écoute, Joseph, je tiens quand même à ce que tu saches qu'à partir de demain, ça va aller mal pendant 13 ans. Est-ce que Dieu aurait pu le prévenir? Après tout, sincèrement. Pourquoi Dieu n'a pas averti son frère, que son père, que son fils, et t'inquiète pas, ton fils, tu le retrouveras, tes autres fils lui ont fait un sale coup, mais t'inquiète pas. Il a, pendant 22 ans, son père, il a attendu. 22 ans. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et Dieu aime quand nous avons cette attitude. Et Joseph, pourquoi Dieu a choisi Joseph, ce jeune homme qui à l'époque n'avait que 17 ans? Eh bien parce que quand on lui pose des questions, lui, il ne dit pas « Dieu règne », il le dit d'une autre façon, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Et c'est pour ça que Dieu a choisi Joseph. Parce que Joseph était dans cette dépendance malgré toutes les épreuves qu'il a traversées. Dieu pourrait nous dire, par contre, ce qu'il a dit à Pierre qui était quand même un apôtre, ce que tu ne comprends pas, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, ou bientôt. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. C'est vrai que nous, on aimerait, qu'est-ce qui se passera? Quand est-ce que ceci? Quand est-ce que cette épreuve terminera? Quand est-ce que j'aurai du travail? Quand est-ce que je serai guéri? Etc. Je comprends, ce n'est pas malsain. Mais mes frères et sœurs, Dieu attend, non pas que l'on se plaigne, l'ennemi attend que l'on se plaigne. Et si vous vivez tout le temps en vous plaignant, en râlant, je peux vous dire que vous ne pouvez pas dire que Dieu règne dans votre vie. Je pense hélas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut régner dans votre vie. Ce texte, si je ne le cherchais pas, c'est dans Ésaïe 37. On est dans Ésaïe, je l'ai remis, oui. On peut le lire. Ésaïe 37, regardez, juste avant. Ésaïe 37. Et si vous lisez vous lirez le contexte chez vous, vous allez voir que c'est pas piqué des vers, excusez-moi l'expression. Ésaïe 37, verset 26. Écoutez, demain pour le culte, vous lisez tout le chapitre 37. Et vous allez voir la situation que vivait le roi Ézéchias, si je me trompe. Ésaïe 37, verset 26. Regardez la question qu'il pose. Ou plutôt qu'il pose, oui, à Ézéchias. Parce qu'Ézéchias, bon, j'avoue que c'était quand même compliqué. Ésaïe 37, verset 26. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, si vous voulez faire confiance à Dieu, vous lirez le chapitre 37 en entier. Mais ça veut dire que Dieu ne subit rien du tout, qu'il ne passe pas son temps à contrôler les effets de Satan. Dieu, il commande. Quand vous verrez cette histoire, vous comprendrez que Dieu règne. Ésaïe 22. Regardez ce verset, s'il est simple. Mais quand même, moi je vous encourage à méditer ce genre de verset. Regardez verset 11, la deuxième partie du verset 11. Ça, c'est un verset qui en dit long sur notre problème. Quand on n'a pas confiance, Ésaïe 22, verset 11, la deuxième phrase. Regardez bien, frères et sœurs. C'est comme ça que vous apprendrez à développer une véritable confiance. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Regarde, on le relit. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Vous ne voyez pas celui qui a voulu ces choses. Nous, on voit les choses. Nous, on voit les choses qui nous barrent le chemin. Nous, on voit les choses qui nous empêchent d'avancer. Nous, on voit les choses. Et Dieu dit, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu les choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées. On dit aux gens, fixez les regards sur le Seigneur. On a même des cantiques, les yeux fixés sur Jésus. Mais c'est pas vrai. Nous, on voit les choses. Ça me barre le chemin. Ça me contrarie en permanence. Cette chose-là, elle m'énerve. Ça me fatigue. Je vois qu'elle. Non. Dieu te dit, mais ne regarde pas les choses. C'est paraphrasé. Ne regarde pas les choses. Regarde le Dieu qui contrôle toute chose. C'est important, mes frères et sœurs. Regardez avec moi dans le prophète Amos. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos. Parce que là, on est dans les petits prophètes. Osée, Joël, Amos. Je sais qu'il y en a qui auront du mal, mais comme ça, vous le trouverez facilement. Regardez, Amos, chapitre 3, verset 6. Encore une question. Vous savez, des questions, il y en a. Sur les malheurs, sur les épreuves, sur les choses. Des questions, il y en a. Et c'est bien. Dieu pose des questions, c'est très, très, très intelligent. Vous comprenez bien que si Dieu pose une question, ces questions de Dieu, elles sont intelligentes. Amos 3, verset 6, la deuxième partie du verset 6. Regardez bien. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Regardez bien le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, mes frères, est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous révèle sa pensée? On l'a lu tout à l'heure, je me ferai connaître à lui, je me manifesterai à lui si vous gardez mes commandements. Est-ce que vous croyez que cette affaire, elle est reproduisible? Est-ce que Dieu peut nous communiquer sa pensée? Le Seigneur est capable de révéler ses secrets, si on le dit en français aujourd'hui, à ceux qui vivent dans la communion avec lui. Bien sûr que si vous passez votre temps à vous plaindre, à râler, parce qu'il s'est passé ça, parce que cette situation-là, ça ne veut pas dire que Dieu est l'auteur du mal, mais ça veut dire que Dieu contrôle tout. Et il sait exactement quelles sont les conséquences de nos inconséquences, mes frères et sœurs. Le mauvais chrétien, lui, il ne voit que les choses. Il voit que les épreuves, le problème, et il se plaint. Et vous savez, quand il est dit, par exemple, si tu parles contre ton frère, Dieu se... Qu'est-ce qu'il est dit? Il se tait. Si tu critiques ton frère, ta soeur, Dieu se tait. Par contre, si tu fais confiance, il dit, Seigneur, moi je te fais confiance. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Ça me dépasse. L'état de l'Église, l'apostasie en France, tout ça, moi, ça me dépasse. Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance. Tu peux me révéler tes secrets. Ce n'est pas moi qui le dis. À condition que je vive dans la confiance. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus a dit cela. Pourquoi Jésus nous demande de terminer la prière? Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne. Ne reformulez pas la phrase, mais restez dans cette confiance. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Mon péché, je vais m'en occuper d'une manière sérieuse. Et je vais comprendre ta parole. C'est dans Jean 8, 34. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Il écoute et il ne comprend pas. Vous ne comprenez pas les Écritures. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Oui, 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 répondirent-ils. Je peux vous dire que la suite, ça prouve qu'ils n'avaient pas tout compris. On ne comprend pas les choses. Moi, j'ai toujours été étonné, je termine avec ça. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai beaucoup lu. J'ai souvent lu le livre de Job et je comprends, mais j'ai jamais compris pourquoi. Bon, dans le livre de Job, je crois qu'il y a 292 questions. Je les ai comptées. Dieu en pose 78. Lisez-les, vous allez voir. Et quand Dieu pose des questions, ça n'a rien à voir avec l'épreuve. Dieu lui pose des questions sur le cheval, sur l'autruche, sur la sauterelle, sur l'épervier, sur l'aigle, sur la cigogne, sur la lionne, sur le corbeau, sur les chèvres sauvages, sur les biches, sur les ânes sauvages, sur le buffle, sur l'hippopotame, sur le crocodile, etc. Ça n'a rien à voir. Sérieusement, il faut quand même, mettez-vous à la place d'un homme qui a perdu tous ses enfants, tous ses biens, qui pendant des mois est dans la souffrance, il va poser des questions en veux-tu, en voilà. Ses amis qui sont vraiment dans une très très grande spiritualité vont l'affliger avec leurs questions à eux. Et quand Dieu parle, il lui dit, est-ce que tu sais comment la biche, elle m'ébat? C'est archi à propos. Oui ou non? Non mais sérieusement, il faut être honnête jusqu'à un moment quand même. Et il me pose des questions sur l'autruche et sur l'âne sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a quand même une leçon, ça n'a pas été écrit pour... C'est bien joli de faire confiance, vous voyez? Mais là, on est dans un autre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on ne voit pas. La biche qui enfante là-bas dans la forêt, vous pouvez la voir. Et même si c'est extrêmement compliqué que des os se forment dans le ventre d'une biche pour faire des petits, etc., etc., c'est archi compliqué. Comme un morceau de viande dans le corps d'un enfant se met à battre tout d'un coup à la place du cœur, c'est quand même... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que si nous ne nous comprenons pas ce qui se passe dans le visible, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Donc, il vaut mieux lui faire confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Job, qui était un homme intègre et droit, quand Dieu parle de Job, il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu régnait dans la vie de Job. Et pourtant, à la fin, Job va dire, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles de Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Job était intègre et Job était droit, mais l'épreuve qu'il vient de vivre, qui est terrible, terrible, va l'amener à lui faire une confiance totale. Maintenant, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Je reconnais que tu peux tout. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui s'est appliqué. Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Oui, il y a des choses qui me barrent le chemin. C'est vrai, ça me plaît pas. Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance. Tu vas peut-être me donner quelques explications. Vous ne les comprendrez pas. Je ne les comprendrai pas. Ça sera comme les questions de Dieu à Job par rapport au crocodile, à l'hippopotame, à l'épervier. Mais franchement, c'est pas grave. Est-ce que Dieu est digne de confiance? C'est tout. Et vous devez répondre. Qu'est-ce que vous direz? Parce que moi, c'est vrai, les païens, ça m'est égal. Mais l'Église, qu'est-ce que vous direz? Puisque la question, c'est Dieu qui la pose. Qui dira? Eh bien, ce serait bien qu'on dise tous, Seigneur, eh bien, on te fait confiance. Je suis peut-être pas encore marié, je souffre du célibat. Seigneur, tu sais la femme que tu vas me donner. Vous croyez que Dieu pourrait vous dire, tu te marieras avec Gertrude? Est-ce que Dieu... Je prends un nom parce que je ne veux pas... Que ça soit interprété comme une prophétie. Est-ce que Dieu pourrait te dire, tu te marieras avec Jacques, avec... Oui, mais bien sûr. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ règne au siècle des siècles. Et son règne domine sur tout. Et un véritable chrétien, il terminera la course en disant, Seigneur, je sais que tu règnes. Tu règnes en France. En France, tu règnes. Oui, Dieu règne. Dieu règne. Tous ces problèmes d'émigration, les gens ils sont en colère avec l'émigration. Mes frères et sœurs, Dieu règne. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il peut contrôler ou ne pas accepter, etc. Dieu règne au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, que dans votre vie, il y ait plein de merci. Plein d'actions de grâce, plutôt que de regarder les choses et de râler. Parce que si vous râlez, Dieu se tait. Vous lirez le psaume 50, si vous doutez de mes propos. Vous lirez le psaume 50 et vous verrez que quand on se plaint, Dieu se tait. Et que quand on a une communion avec lui, Dieu est capable de nous révéler ses secrets. Alléluia. Que son nom soit béni. On le remercie ou on termine en se plaignant? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va le remercier. Voilà. On ferme les yeux et vraiment, vraiment, on lui rend grâce de sa parole. Notre Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour toutes les fois où tu nous as éclairés. Et même si nous ne comprenons pas tout maintenant, nous le comprendrons plus tard ou dans les cieux. Puisque tu dis que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Seigneur, merci pour les épreuves, merci pour toutes les choses que nous n'avons pas comprises. Ce que nous savons, c'est que nous voulons que tu règnes sur toutes les choses. Dans notre vie, qu'elles soient affectives, sentimentales, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient professionnelles, dans tous les domaines, Seigneur. Nous croyons que tu peux régner. Oui, règne en nous, Seigneur, règne en moi. que nous puissions ressortir de ce temple tout à l'heure avec cette faveur et cette grâce de t'être agréable. Et pardonne, Seigneur, pardonne les frères, les sœurs, pardonne-nous pour toutes les fois où à la place des actions de grâce, à la place des merci, il y a eu des plaintes et des apitoiements. Seigneur, nous voulons nous corriger parce que nous le croyons que l'Éternel règne au siècle des siècles. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main et conduis-nous et que nous ayons la joie de nous endormir dans cet état d'esprit et de nous réveiller demain matin en nous imposant la grâce de te rendre continuellement grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Rentrez en rendant grâce à Dieu.